Il est 7h20, la semaine politique, Yaël Gauz. On regarde dans le rétro, on se projette sur les jours qui viennent. Bonjour Yaël.
Bonjour Nicolas.
Ce que vous retenez de la semaine, Yaël, c'est une bombe passée sous les radars.
Le Luxembourg, boîte noire fiscale, enquête en plusieurs volets publiés depuis lundi dans Le Monde. Une quarantaine de familles parmi les plus riches de France y mettent leur patrimoine à l'abri. Et ça donne quoi? Une toute petite question au gouvernement, mardi à l'Assemblée.
Quand une ritournelle répète qu'il faudra payer la dette liée au Covid, il faudrait d'abord arrêter la concurrence fiscale entre pays européens.
Le député communiste Fabien Roussel, à qui Bercy répond que ses services luttent sans relâche contre l'évasion fiscale. Et puis, c'est tout, indifférence générale ou presque. Le Luxembourg, paradis fiscal, blanchisserie mondiale, c'est plus gris, plus complexe que ça, Nicolas. Depuis 2014 et le premier scandale LuxLeaks, la pression européenne notamment a fait bouger les lignes. Le secret bancaire n'existe plus, la pratique des rescrits fiscaux a nettement diminué et la directive adoptée en 2018 oblige à publier l'identité de ceux qui possèdent des sociétés sur son territoire. Mais ces progrès n'ont pas fait sauter le coffre-fort. Les montages financiers légaux sont toujours plus complexes. En épluchant les registres, Le Monde a découvert que seuls 40% des grandes fortunes françaises domicilient dans l'Hexagone leur résidence fiscale. Malaise. Mais le Luxembourg est notre allié diplomatique. On se souvient des années Juncker, toujours en soutien quand Bruxelles se plaignait des dérives de nos finances publiques. Notre petit voisin fait travailler 120 000 de nos frontaliers. Même les gendarmes font parfois leur plein de l'autre côté de la frontière. Réal politique fiscale, sans doute. Mais alors, où est passé le président du grand débat et de la lutte contre l'évasion fiscale? À quoi bon supprimer l'ISF si tout le monde reste bien au chaud au Grand-Duché? Les gros s'arrangent, les petits regardent les milliards passer. Le séparatisme fiscal, sujet explosif lui aussi, à l'approche de la présidentielle.
Allez, on se projette, Yaël, sur les jours qui viennent.
Et Nicolas, qu'est-ce qu'on vote après le Covid?
Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction.
Pour l'instant, le pari du non-reconfinement est tenu, la vie politique suit son cours, les députés votent mardi cette loi contre les séparatismes. L'agenda est à peu près calé jusqu'en juin, mois de césure, les régionales, les dates des 13 et 20 juin sont quasi gravées dans le marbre. Mais le deuxième semestre est une page blanche. Or, le parcours d'une loi, c'est 7 mois de délai en moyenne, 7 mois, c'est ce qu'il restera de temps utile avant la présidentielle, d'où l'effervescence en ce moment dans les ministères, ça se bouscule, tout le monde veut sa place dans le calendrier. Arbitrage à l'Elysée, Emmanuel Macron sait qu'il est crucial de bien négocier le dernier virage d'un quinquennat. Il a vu déraper François Hollande sur la loi travail. Et donc, ça ne plaide pas pour un nouveau tour de chauffe sur les retraites. Car ce qui ressort des réunions autour du président en ce moment, c'est la nécessité d'apaiser. Grande inquiétude sur le contre-coup économique à venir en septembre. Après le soutien aux trésoreries, il faudra voler au secours du capital des entreprises. On va vers des nationalisations temporaires, m'a confié un responsable de la majorité. De la place, il y en aura pour deux grands textes, pas plus. Celui d'Éric Dupond-Moretti et sa justice de proximité tient la corde. Celui de Brigitte Bourguignon sur la dépendance apporterait de l'oxygène au pouvoir d'achat des Français, mais il coûte cher. Plutôt du feel good, donc, résume un ministre, à condition que fin de mandat rime avec fin d'épidémie. Happy end, pour l'instant, c'est une prière, pas une prévision.
Yaël Gauz, merci. France Inter.